Bonsoir chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique, c'est votre rendez-vous avec Carrefour Science et Santé, Eric Manilakiza en votre compagnie. Nous ne manquerons pas de sourire aujourd'hui, un bon sourire en tout cas, mais à une seule condition, soignons notre hygiène, notamment en nous brossant les dents.
Oui, ben, c'est sûr que quand on est adulte et qu'on se retrouve avec plein de caries dentaires qui sont catastrophiques au niveau du sourire, on regrette de ne pas s'être lavé les dents le plus souvent. On se retrouve avec des trous dans les dents et des caries bien noires.
Hélène Harpin enseigne la microbiologie. Elle nous dira combien l'hygiène est importante pour vaincre les microbes et nous prémunir contre les maladies, mais aussi nous permettre d'épargner de l'argent. Et Philippe Bouvard va plus loin dans sa pensée. On respecte les vieux parce qu'ils ont résisté aux microbes qui tuent souvent les jeunes. Eh bien, si vous voulez être respecté et vivre longtemps, ne décrochez pas, restez accrochés sur VOA Afrique. Vous écoutez Carrefour Science et Santé. L'hygiène corporelle est très importante dans notre vie de tous les jours. Nombreux d'entre nous l'ignorent ou le négligent, mais figurez-vous, c'est simple à faire.
Oui, le lavage des mains. Le lavage des mains, c'est tout simple, mais effectivement, parce que les mains touchent tout. Déjà, on a des microbes sur les mains, plein de bactéries qui sont présentes sur les mains. Et ensuite, on va toucher n'importe quelle surface ou sol. On va se contaminer encore plus. Et donc, si on veut manipuler un aliment, par exemple, qui va être propre, eh bien, il faut se laver les mains. Et laver, ça veut dire... Alors, c'est pas simplement passer à l'eau, hein, parce que ça suffit pas, généralement, mais c'est laver avec un savon ou une solution hydroalcoolique. Maintenant, on aime bien un peu d'alcool qui a plus d'efficacité souvent qu'un savon. Faire attention au savon aussi qu'on laisse des fois sur le bord de l'évier et qui, justement, n'est pas assez rincé et peut être la source de microbes aussi parce que le savon lui-même n'a pas été rincé suffisamment et donc il est encore contaminé. Donc, on se lave avec un savon, on fait attention, on prend le temps de laisser agir le savon lui-même sur les mains. Ensuite, on rince. On fait aussi, c'est vrai, on fait attention à se laver aussi bien les ongles, surtout quand on va manipuler un aliment par exemple, ou quand on va toucher un enfant, ou voilà, hein, quand on a besoin de faire quelque chose de propre après. Donc les ongles, hein, doivent être bien nettoyés aussi. Et après, on se sèche les mains avec un torchon, mais un torchon propre également, qui ne doit pas servir après à autre chose. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, et voilà, pour être cohérent avec un lavage de mains, voilà, il ne faut pas tout de suite après qu'on se recontamine en touchant n'importe quoi.
Il y en a par exemple, quand ils vont aux toilettes et qu'ils font pipi, ils ne voient pas l'importance de se laver les mains. Est-ce que c'est important de toujours se laver les mains?
Ah oui, bien sûr, à tous les moments. Le problème, c'est que évidemment, quand on va aux toilettes, et bon, souvent on va éventuellement se contaminer avec un peu d'urine, hein, et donc évidemment, il va falloir se laver les mains. Hein. Alors, si on n'a pas le temps, hein, parce qu'on dit souvent oui, on n'a pas le temps de se laver les mains de façon très approfondie, etc. Alors, ce qu'on peut éliminer, c'est le séchage. On peut laisser sécher à l'air libre, éventuellement. Mais surtout, vraiment insister sur les mains, hein, un certain temps avec un savon. Très, très important. Parce que ben, voilà, c'est vraiment le vecteur de microbes. Ensuite, on met les mains à la bouche. Enfin, voilà, on va toucher n'importe quoi. Et ça doit être une habitude très fréquente. Je sais que dans les hôpitaux, on s'est rendu compte que beaucoup de maladies, en fait, étaient des maladies qu'on appelle nosocomiales, donc qui interviennent, qui apparaissent dans les hôpitaux, étaient liées donc à l'insuffisance de lavage des mains, hein, des pertes du personnel. Parce que, ben, sous prétexte de manque de temps, et c'est vrai, on voit souvent les infirmières très pressées d'aller d'un patient à un autre, donc et par manque de temps, le lavage des mains n'était pas souvent correct. Et maintenant, on les oblige effectivement à se laver les mains plus fréquemment avec des produits souvent à distribution unique, hein, et on a vu bien sûr ces maladies diminuer, le taux de ces maladies diminuer.
Est-ce que porter le même habit plus d'une fois peut entraîner des microbes?
Alors effectivement, le vêtement, quand c'est un vêtement ou qui peut être sali, il doit être obligatoirement nettoyé et changé le plus souvent possible. Tout simplement parce que les microbes sont très petits, on ne les voit pas et ils se développent facilement dans un tissu. Hein, au niveau de la fibre du tissu, vous pouvez avoir bien sûr des microbes qui se développent très facilement. Et on va s'essuyer par exemple les mains ou on va transpirer dans un vêtement. Et bien le mieux c'est de le laver assez fréquemment. Hein. Tous les jours, changer son vêtement, c'est important de le laver.
Et les chaussettes aussi?
Bien sûr, chaussettes, bien sûr. Tout. Surtout ce qui est en contact avec la peau ou alors avec l'extérieur qui va être contaminé, qui va être salé. Et dès qu'il y a une trace de salissure, c'est en fait que on peut considérer ça comme une source de microbes et donc il va falloir les nettoyer.
Mais très souvent, ce n'est pas évident de changer son vêtement au quotidien, surtout dans les milieux pauvres. Hélène Harpin donne l'alternative et revient également sur l'intérêt de nettoyer chez soi.
À ce moment-là, il faudrait essayer d'avoir peut-être une tenue qui est pour mettre un tablier lorsque l'on fait des manipulations sales, contaminantes. Et puis, avoir par-dessous quelque chose qui est plus propre pour pouvoir changer un peu moins souvent. Voilà, un tablier simplement pour pouvoir protéger justement son vêtement qu'on veut garder un peu plus propre et pouvoir ne pas en changer aussi souvent. Ça peut être une solution, évidemment.
Et la propreté dans la maison est-elle importante aussi?
Alors dans la maison, la propreté est importante parce que plus il va y avoir de poussière par exemple, plus ça va être vecteur de microbes. Plus il va y avoir de mouches, pareil, plus ils vont être porteurs aussi de microbes d'un endroit à un autre. Ne pas hésiter à utiliser l'eau de Javel parce que le problème de l'eau de Javel c'est qu'il ne faut pas la chauffer parce que les vapeurs sont toxiques. Mais l'eau de Javel s'utilise à froid. Diluée toujours avec un peu d'eau et elle est très efficace l'eau de Javel et c'est un moyen simple de décontaminer les surfaces de travail, le sol, etc. C'est vraiment, à mon avis, un produit simple, pas très cher et efficace. Voilà. Ensuite, évidemment, on peut, si on n'a pas d'eau de Javel, tout simplement faire avec des produits comme le vinaigre, par exemple. Des produits acides, le citron. Voilà, ces produits-là, acides, permettent de nettoyer par exemple le réfrigérateur. Comme je vous disais tout à l'heure, les microbes ne se multiplient pas ou faiblement dans les frigos, mais ils continuent à vivre. Donc en nettoyant aussi son réfrigérateur, une fois par mois à peu près, même simplement avec une solution de vinaigre, un peu de vinaigre, ça permet justement d'avoir quelque chose de propre et d'empêcher quand même ces multiplications. Puisque je parle de réfrigérateur, une chose simple aussi, c'est vérifier la température de son frigo. Parce que souvent, on a l'impression qu'il est suffisamment froid et puis non. Donc il faut que la température du frigo soit aux alentours de 4 degrés, pour que le minimum de microbes se développe dedans.
Et souvent, j'entends parler de champignons. C'est quoi exactement ?
Champignons microscopiques, effectivement, alors ça va être les levures ou les moisissures. Alors c'est tout simple parce que généralement on les voit, ils contaminent par exemple les fruits, on voit des moisissures sur les fruits, on peut en voir aussi sur les yaourts quand ils sont ouverts et laissés ouverts à température, à l'air libre. Donc ça, les champignons, on va dire lutter un peu plus facilement parce qu'on les voit plus facilement, ils forment des grosses colonies, ces espèces de moisissures là. Ils ne sont pas forcément graves, pathogènes. Par contre, souvent, ils sont plus détruisent plutôt l'aliment plus qu'ils n'entraînent des maladies. Sauf évidemment chez les personnes immunodéprimées, donc je disais tout à l'heure, les personnes atteintes du virus du sida ne doivent pas être en contact avec justement ces moisissures. Quoi qu'il en soit, la présence de ces moisissures montre aussi qu'il y a une hygiène qui peut être pas respectée. Sauf si vous avez des fruits qui moisissent, ça c'est un peu plus naturel. L'important c'est de les jeter.
Vous avez dit qu'il faut se laver les mains, qu'il faut laver ses vêtements, les changer. Dans les pays pauvres toujours, on sait que les gens ils n'aiment pas, disons, se laver à leur corps.
À ce moment-là, il faut que au moins les mains soient nettoyées. Ils utilisent quand même un petit peu d'eau pour passer sur leur corps, pour enlever un minimum de saleté, donc de microbes. Ça, c'est quand même très important. Pourquoi ? Parce que, après, la moindre petite coupure peut être la porte d'entrée aux microbes. Et donc, dès qu'on a beaucoup de microbes sur soi, c'est plus favorable à la pénétration de microbes qui vont être justement virulents, pathogènes et entraîner des maladies. Donc, la raison pour laquelle le fait de se laver est quand même important. C'est vrai que le fait d'avoir transpiré énormément, par exemple, n'est pas, c'est plus ensuite pour se sentir mieux qu'on a envie de se laver, peut-être, mais voilà, c'est pas pour une contamination possible, hein. Mais c'est plutôt quand on va toucher beaucoup de choses à l'extérieur qu'on risque de se contaminer et que là, en fait, la présence de saleté, de vêtements un peu souillés montre qu'il y a une faiblesse au niveau hygiénique, voilà.
La présence des saletés dans les maisons et sur les vêtements peut développer certaines bestioles comme la punaise, souvent appelée punaise de lit. Des scientifiques sont parvenus à décoder l'ensemble de son matériel génétique ou son ADN. Ce décryptage pourrait aider à déjouer sa résistance aux pesticides, n'est-ce pas Maëlys ?
La punaise de lit est appelée Cimex lectularius. Elle mesure entre 4 à 7 mm à l'âge adulte et elle a la fâcheuse habitude de sucer le sang des humains lorsqu'ils dorment la nuit. Les morsures sont indolores mais démangent énormément. Alors qu'elles avaient pratiquement disparu dans les années 1950, les punaises reviennent en force depuis les années 90 et la période de mondialisation. Le développement des transports, le chauffage des logements et la densité humaine favorisent son installation dans les zones urbaines. La revue Nature a publié 2 études qui permettraient d'entrevoir des pistes pour limiter son essor. Apparemment, un très fort pourcentage de punaises de lit présente des mutations génétiques qui les rendent résistantes aux insecticides courants. Les punaises de lit se seraient adaptées en fabriquant des enzymes détoxifiantes qui dégradent les insecticides. Leur peau se serait également durcie pour se protéger de ces produits. Les scientifiques ont découvert que c'est au moment où les insectes deviennent adultes, et donc lorsqu'ils commencent à sucer le sang des humains, qu'ils développent des mécanismes de résistance aux insecticides. Cela suggère donc que les punaises sont plus vulnérables à leur premier stade de vie. Pour se reproduire et pour grandir, les punaises ont besoin de bactéries. Les chercheurs se sont donc intéressés au patrimoine génétique de ces bactéries et ont découvert que certains antibiotiques pouvaient les attaquer. Ces antibiotiques pourraient donc venir en complément des pesticides pour enfin réussir à exterminer les punaises de lit. Résistantes les punaises de lit, mais plus pour longtemps.
Ne quittez pas, nous retrouvons dans quelques instants Hélène Harpin pour aborder l'hygiène alimentaire. L'alimentation constitue un foyer important de microbes. Pour préparer la nourriture, Hélène Harpin dit qu'il nous faut prendre des précautions pour éviter les microbes.
L'hygiène de tous les jours est essentielle pour se prémunir contre ces maladies. Pourquoi ? Parce que les microbes se développent facilement, hein, mais il faut des conditions quand même particulières, c'est-à-dire et il faut une certaine température, c'est-à-dire de l'ordre de 37 degrés, hein, entre 20 et 40 degrés, généralement, ils se multiplient très bien, très facilement. Donc, il faut soit, par exemple, si on ne veut pas être contaminé, soit se refroidir, refroidir par exemple des aliments, hein, c'est facile, mettre au réfrigérateur, congeler, mais ça n'empêche pas, ça ne tue pas les microbes, la congélation ou le froid. Au contraire, ça les maintient en vie, mais par contre, ils ne se multiplient pas. Hein, si vous voulez, ça arrête leur multiplication, mais ça ne les tue pas. Donc la deuxième possibilité, c'est de chauffer. Hein, chauffer par exemple des aliments, chauffer l'eau, mais chauffer à 100 degrés, c'est-à-dire faire bouillir l'eau, hein, pas simplement la mettre à 60-70 degrés. De cette façon, en faisant bouillir l'eau, on va tuer cette fois-ci la plupart des microbes qui étaient contenus dedans. Par exemple, bon, le choléra, par exemple, va être éliminé lorsqu'on va faire bouillir de l'eau. Hein. Mais quand on prend ces précautions de chauffage à forte température, ensuite, l'aliment, par exemple, doit être conservé fermé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ensuite, il y a l'humidité aussi, hein, qui est favorable au développement des micro-organismes, des microbes. Donc, tout ce qui est aliment, par exemple, qui est très humide, on évite de les conserver à température ambiante chaude, hein, et on les met plutôt au frais. Même chose, donc l'hygiène toute simple, c'est-à-dire que les microbes aiment bien se développer, se multiplier dans les déchets alimentaires, donc les poubelles. Hein, donc on fait attention tout simplement à mettre les poubelles fermées en dehors de l'endroit où on va travailler, où on va cuisiner, par exemple. Vraiment, les mesures de prévention, c'est séparer ce qui est circuit sale, hein, les déchets, du circuit propre, là où on va travailler ou manipuler des aliments ou être dans l'hôpital par exemple, voilà, on fera bien attention à ça. Pourquoi ? Parce que aussi on peut avoir des vecteurs, des transporteurs de microbes, tout simple, c'est les mouches, qui vont aller de la poubelle à la cuisine, de la poubelle à une salle d'hôpital, et peuvent transporter de cette façon-là des microbes. D'où l'intérêt, par exemple, quand on a des poubelles et des chiens alimentaires, de les mettre en dehors d'un circuit propre et fermé, à l'abri de toute contamination.
Par exemple, moi, quand je fais ma cuisine, je garde ma nourriture au frigo, et quand je veux manger, j'en chauffe dans un micro-ondes. Est-ce que ça veut dire que je ne me protège pas assez ?
Tout dépend, voilà. Quand on met les aliments dans le frigo, si les aliments ne sont pas stériles, il y a bien sûr forcément des microbes dedans. Donc les microbes vont rester présents dans l'aliment, mais ne vont pas se multiplier au frigo. Donc dès qu'on ressort cet aliment du frigo, on est à température 20-40 degrés, mettons, et bien là, ils vont se multiplier, les microbes, très facilement, très rapidement. Si on mange tout de suite l'aliment, il n'y a pas de souci. Si on l'a fait réchauffer au micro-ondes, on ne tue pas forcément tous les microbes, mais on peut en tuer une certaine quantité. Et si on consomme l'aliment rapidement, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème est si on passe 2-3 heures à table avec le plat qui est bien réchauffé, qui reste là, et où les microbes vont se développer. On va remettre éventuellement le reste de l'aliment qui n'a pas été consommé au réfrigérateur, et là on aura donc un nombre de microbes beaucoup plus important, et ils vont rester donc présents pendant tout le temps où on les aura laissés au frigo. Et lorsqu'on va reprendre cet aliment et reconsommer les restes, on aura, si on les laisse encore se développer à température ambiante, on aura encore plus de micro-organismes. Et c'est là que le problème plutôt, c'est justement de permettre aux microbes de se développer à température ambiante. Donc, si on refait chauffer encore cet aliment-là, eh bien, les microbes vont avoir tendance à se remultiplier. Et c'est là que, bien sûr, on va avoir un risque de contamination, et donc le risque, par exemple, alors là, c'est souvent des pathologies assez simples, diarrhée, vomissement, etc., mais quand même, qui sont quand même handicapantes. Mmh. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est justement de conserver la chaîne du froid, par exemple, et ensuite, dès qu'on sort de la chaîne du froid, de consommer l'aliment assez rapidement.
Comment peut-on épargner de l'argent grâce à l'hygiène ? Hélène Harpin nous répondra tout à l'heure. Plus on fait attention à son hygiène, plus on se protège contre les maladies. Et ces maladies provenant des microbes constituent un véritable problème de santé publique. Lorsque l'on tombe malade, on dépense de l'argent pour se faire soigner, c'est-à-dire voir le médecin, payer les médicaments, l'hospitalisation dans certains cas. Même si l'on a la chance de s'en tirer, on peut retomber facilement malade si l'on ne prend pas soin de son hygiène. Ce cercle vicieux fragilise davantage les milieux les plus pauvres qui n'ont pas assez de ressources financières. En cas de maladie, c'est parfois de l'argent que nous pouvons épargner ou utiliser dans autre chose, mais que nous dépensons par ignorance ou négligence. Hélène Harpin explique aussi d'autres moyens pour lutter contre les microbes, en plus de l'hygiène de tous les jours. Que faut-il faire encore ?
Le mieux, c'est toujours de prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire que le mieux, c'est de déjà penser à toutes les vaccinations qui peuvent être possibles, que l'on connaît. Pourquoi ? Parce que, en fait, un vaccin, c'est quoi ? C'est un microbe dont on a atténué, diminué, en fait, la virulence, le côté dangereux, et que l'on va injecter, donc transmettre à un individu. Et de cette façon-là, lui-même va pouvoir se défendre contre microbes et fabriquer ses propres défenses. Et ça, c'est très important, parce que de ce fait, il aura une immunité qu'on appelle acquise, où il aura donc agi lui-même, son organisme se défend contre cette maladie. Et donc, si une autre fois, un peu plus tard, le microbe pénètre de nouveau dans cet organisme, il va être tout à fait capable cette fois-ci d'avoir des défenses immunitaires très rapides et très efficaces. Donc le vaccin, la vaccination est une bonne façon de prévenir en tout cas les maladies. Les vaccinations, donc pareil, ça doit être un moyen individuel de se immuniser, de se prémunir, mais aussi un moyen collectif, parce que plus les individus sont vaccinés, et moins bien sûr les microbes vont pouvoir se propager à travers les hommes par exemple. Donc il existe beaucoup de vaccins hein, actuellement, on en recherche de plus en plus et donc il faut y penser tout de suite. Et puis ne pas oublier surtout les rappels. Au départ quand on est enfant, hein, les vaccins les parents pensent à le faire à leurs enfants, mais après souvent ils oublient les rappels. Donc il faut penser à de temps en temps demander à son médecin s'il n'y a pas des rappels de vaccins, de vaccination à faire.
Et quand l'on s'occupe convenablement de son hygiène, on peut économiser aussi de l'argent dans les ménages.
De l'argent dans les ménages, oui, bien sûr, parce que lorsque on aura une hygiène correcte, bien évidemment, on aura moins de maladies, donc ça reviendra beaucoup moins cher, bien sûr.
Donc on n'aura pas à les dépenser dans les hôpitaux, à acheter des médicaments.
Exactement, hein, si on a une hygiène correcte, on n'aura pas besoin d'avoir recours à des médicaments, aller voir son médecin, etc. La santé, en fait, c'est vraiment une question de réflexion, hein, souvent juste il faut réfléchir à se protéger contre les microbes éventuellement en réfléchissant à ce qu'on fait. Effectivement, du coup ça coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter des médicaments.
Avant la fin de ce Carrefour Science et Santé, Hélène Harpin nous réserve la surprise. Si vous voulez avoir un beau sourire, restez accrochés sur notre antenne. Votre moment d'apprendre à afficher un beau sourire, c'est marrant, vous ne pouvez pas y croire. Eh bien, on n'a pas besoin de la magie, il suffit tout simplement de se brosser les dents, comme l'explique bien Hélène Harpin.
Alors, le brossage des dents est important aussi. Pourquoi ? Parce que lorsque on ne se brosse pas les dents, il y a certaines bactéries qui vont transformer en acide les restes alimentaires et donc quand on mange des sucres par exemple, et ensuite ces acides là attaquent les tissus des dents et vont entraîner par exemple des caries. Et ça, c'est vraiment très embêtant parce que bah, du coup, la dent va être abîmée et va tomber. Donc voilà pourquoi il faut se laver les dents, tout simplement. D'autre part, d'autres bactéries encore qui sont présentes dans la bouche peuvent ensuite fabriquer certaines substances toxiques responsables, par exemple, de gingivite, c'est-à-dire d'inflammation, gonflement au niveau de la gencive des dents. Et ça, c'est très, très, très désagréable. Voilà, donc l'hygiène dentaire est importante aussi.
Et combien de fois faut-il se brosser les dents par jour?
Alors, normalement, hein, c'est après chaque repas. Parce que justement, il faut enlever ces microbes qui peuvent modifier les restes alimentaires, le matin et le soir. Maintenant, si on n'arrive pas après chaque repas à se brosser les dents, au moins le soir avant d'aller se coucher, pour que justement les restes alimentaires ne restent pas dans la bouche au niveau des dents pendant toute la nuit. C'est ça qui est important.
Il y en a qui font l'inverse, qui préfèrent se brosser les dents le lendemain matin et le soir, ils ne le font pas.
Oui. Le mieux, c'est les deux. Hein. Mais bon, le soir, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a mangé les derniers... Après avoir mangé les derniers repas, le soir, on se brosse les dents. Et là, on va rester quand même, mettons, 8 heures de sommeil ou de nuit, hein, sans se brosser les dents. Donc, après avoir mangé, il vaut mieux quand même se brosser les dents. Donc, c'est mieux, alors, si on doit faire qu'un seul brossage par jour, le faire le soir.
Et si on applique cette hygiène avec toute la rigueur qu'il faut avec tout ce que vous venez de nous expliquer, combien de pourcentage peut-on prétendre, disons, se prémunir des maladies liées aux microbes?
Alors, les maladies liées aux microbes, évidemment, elles ne sont pas toutes éradiquées grâce à l'hygiène, mais disons qu'une grande partie, je ne sais pas quel pourcentage, mais une grande partie, bien sûr, de ces contaminations va pouvoir être limitée. Je ne sais pas, peut-être 50% au moins. Voilà. Ensuite, on ne peut pas, bien sûr, juste avec une hygiène de tous les jours, empêcher toute maladie, évidemment. Mais c'est quand même très, très important hein, dans la diminution, en tout cas, des contaminations et dans l'amélioration de la santé publique, individuelle et même publique hein, en général. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une hygiène personnelle aussi, ça a une influence aussi sur les autres, hein, parce que, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du brossage des dents, et bien, bon, même si pour soi-même, ça n'a aucun intérêt, par exemple, et bien, si vous avez une bouche pleine de bactéries, de microbes, et que vous postillonnez sur quelqu'un en parlant, et bien, vous allez le contaminer.
Appliquons les règles d'hygiène telles que Mme Harpin nous l'a prodiguée. Ainsi s'achève Carrefour Science et Santé. Eric Madinakiza espère retrouver votre oreille attentive. La semaine prochaine, prenez soin de vous. Au revoir.
Bienvenue.